m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Restons Courtois, notre émission de débat vespéral en partenariat avec Valeurs Actuelles, L'Incorrect, Boulevard Voltaire et Le Monde Moderne. Ce soir, notre grand invité est Jean-Yves Le Gallou, qui vient nous présenter son nouveau livre. Alors un nouveau livre sulfureux, clivant, au point que je dois avouer que quand je l'ai découvert, je me suis dit « alors là, ça va vraiment enflammer le plateau de Restons Courtois ». Personne ne va être d'accord, et je vous le donne en mille, donc son titre, La Remigration, sous-titré Pour l'Europe de nos enfants. Alors, c'est le grand débat de ce soir, pour ou contre la remigration, je vous le demande, tel sera donc notre débat et le thème sur lequel nous allons nous écharper ce soir avec Jean-Yves Le Gallou, et nous lui poserons toutes nos questions, sans tabou et sans complaisance. Alors, nous reviendrons ensuite sur le second tour des municipales. Quelles leçons en tirer sur le plan local? Peut-on, sur la base de ces résultats, faire des projections sur la présidentielle et savoir qui sera le maire de la France en 2027? Nous en parlerons aussi. Nous parlerons ensuite, une fois n'est pas coutume, d'une querelle interne à la gauche, puisque le politologue Jean-Yves Camus, c'est la malédiction des Jean-Yves, là, voilà.
Et des Camus, oui. La double malédiction.
La double malédiction, oui. Jean-Yves Camus, qui n'a jamais été un francopin de notre famille de pensée, si on se souvient quand même qu'il était un des experts obligatoires de l'extrême droite dans les années 90-2000, Jean-Yves Camus donc se trouve sur la sellette et attaqué, alors là, attaqué par Le Monde en personne, le journal de référence. Et le motif...
Le journal Antifa de référence.
Antifa de référence. Celui dont, je crois, Jean Madiran disait qu'il mentait même sur sa date de parution.
C'est très drôle, mais c'est très vrai. Ouais.
Le motif, donc, et ils le disent très clairement hein, dans l'article, il n'est pas assez hostile au RN et à l'extrême droite en général. Alors, et en plus, ça il le souligne aussi, il est venu débattre librement à Radio Courtoisie. Alors, ils ne disent pas débattre librement, hein. Ils disent qu'il s'est évidemment commis à Radio Courtoisie. Où il a été en plus bien traité, ce qui signifie que c'est vraiment le complice de la bête immonde. Et peut-être pire, il était aux obsèques de Jean-Marie Le Pen au lieu d'aller sabrer le champagne place de la République comme n'importe quel chercheur objectif.
Et, non mais absolument.
Voilà, donc sa démarche scientifique de lutte contre la haine est gravement remise en question par Le Monde, donc nous en parlerons. Nous dirons ensuite un petit mot sur la guerre en Iran, et puis spécialement sur le blocage du détroit d'Ormuz, et sur l'attitude de Donald Trump vis-à-vis des Mollahs. Pour parler de tous ces sujets, donc j'ai le plaisir d'accueillir les tout blancs tout moches de la réinformation. Tout blanc tout moche, c'est l'expression que vous avez peut-être entendue dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Alors peut-être qu'il parlait de lui, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas franchement basané. Je ne m'exprimerai pas sur... Sa beauté, mais bon. Voilà, on aura l'occasion d'en parler pendant la partie sur les municipales, mais il a appelé donc les autochtones de France, les Français de souche, et il les a qualifiés de tout blanc, tout moche. Ce qui est quand même... je l'ai assez mal pris. Alors, les tout blanc, tout moche de la réinformation. Jean-Yves Le Gallou, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. Richard Decez, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie.
Bonsoir.
Xavier Van Lierde, journaliste, et nous attendons Damien Rieu, qui ne devrait plus tarder. Alors, chers auditeurs, donc je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser vos questions à Jean-Yves Le Gallou et nous faire part de vos commentaires sur les municipales ou sur le détroit d'Ormuz en écrivant à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou téléphoner au 01 46 51 00 85, 06, 41, 51, 00, 85. Alors, entretien donc avec Jean-Yves Le Gallou, qui publie « Remigration pour l'Europe de nos enfants » aux éditions Nouvelle Librairie. C'est en partenariat avec l'Iliade. Alors, l'Iliade en tant qu'éditeur ou en tant que structure ?
L'Iliade a une collection à la Nouvelle Librairie, une collection, plusieurs collections, Longue Mémoire notamment, et puis des collections hors série comme ce livre-là. Donc, l'Iliade est le directeur de collection à la Nouvelle Librairie.
D'accord. Voilà
comment on peut présenter les choses.
Alors, avec une très belle couverture, où on voit un enfant qui court et dont l'ombre projetée au sol est un bel avion, qui nous rappelle l'objectif du livre. Et sur un joli fond, le ciel, donc, qui est d'un beau rouge framboise.
Rouge framboise, parce que la framboise, c'est la couleur...
De la remigration.
Du bonheur et de la remigration, parce que nous souhaitons une remigration heureuse, en tout cas pour les natifs, pour les Européens.
Bon, eh ben je souligne, pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, que vous êtes ce soir avec une magnifique cravate d'un framboise
oui.
Explosif. Et voilà, donc Jean-Yves Le Gallou, Remigration pour l'Europe de nos enfants, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, bille en tête, je vous pose les premières questions. Est-ce que la remigration est vraiment la bonne solution? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre tout ce qui fait la richesse de notre vivre ensemble? Je pense au polygame de la Courneuve, je pense aux coiffeurs afro du boulevard Sébastopol, je pense aux bruits et aux odeurs, de henné et de patchouli mêlés de shit à la station Stalingrad. Je parle aux poulets, ça c'est une des images qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Ces poulets qui grillent lentement sur les trottoirs et les capots de voitures au soleil d'août, sur le marché... illégal de Château-Rouge, la DZ Mafia à Marseille, les livreurs de kebab partout en France, les demandeurs d'aide sociale, les prières de rue géantes, les égorgements de moutons dans les baignoires des HLM. Voilà. Et ces agressions qui nous obligent, ainsi que nos enfants, à rester en éveil, dynamique, en alerte, au lieu de nous avachir bêtement comme des tout blancs tout moches.
Alors, effectivement,
j'avais dit que ce serait sans complaisance.
C'est un risque. Alors, pour vous répondre un peu sérieusement après ce brillant exorde, le livre sur la remigration, il change les perspectives sur l'immigration. Puisque jusqu'ici, à chaque fois qu'on parle d'immigration, en tout cas dans les médias mainstream et même moins que ça, on se place du point de vue des migrants. Qu'est-ce qui est bon pour eux? Est-ce qu'on les accueille suffisamment bien? Est-ce qu'on prend suffisamment en compte leur droit à venir chez nous, à séjourner chez nous, à bénéficier de logements sociaux, etc. C'est-à-dire qu'on se place du point de vue du bien de l'étranger, de celui qui arrive. Eh bien, dans ce livre, je renverse sa perspective et je mets comme première préoccupation, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre aussi en compte l'autre préoccupation, mais comme première préoccupation, le bien-être, la tranquillité, la sécurité, l'accès au logement, la qualité de l'école, la qualité dans la vie publique des Français, ou plus largement des Européens, des natifs. Les nôtres avant les autres. C'est la première préoccupation, c'est une inversion de perspective.
Alors oui, parce que maintenant, pour parler un peu sérieusement, voilà ce qu'on a avec cet ouvrage. C'est une synthèse qui est extrêmement complète du phénomène dit de remigration, du terme, donc depuis ses origines, sa légitimité, sa puissance symbolique également pour les années, peut-être les siècles à venir, sa nécessité impérieuse et les conditions de sa mise en œuvre. Alors le tout, voilà, sans se voiler la face sur les difficultés à relever, et voilà, si on arrête de rire, c'est ce qui m'a le plus convaincu dans la faisabilité du projet, comme on dit en management, à condition d'admettre que nous ne verrons pas, nous, l'issue de ce mouvement, et peut-être même pas nos enfants, eh bien, nous le lançons tout de même, puisque dans ce cas, la remigration devient vraiment un thème pour une nouvelle renaissance de l'Europe. Et quand je parle de renaissance, c'est vraiment au sens, cette charnière entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. C'est-à-dire c'est une vraie renaissance de l'Europe qui est possible si elle se fonde sur cela. Alors, vous avez une préface de Martin Sellner. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots pour les auditeurs qui ne sauraient pas qui est ce...
Martin Sellner est le principal porteur du mot et du terme de remigration et du mythe mobilisateur de la remigration en Europe. Il n'est pas forcément connu de tous les auditeurs de Radio Courtoisie, mais il est très connu dans les milieux des jeunes identitaires, par-delà toutes les frontières de l'Europe. C'est lui qui a organisé l'année dernière le sommet de la remigration à Milan, en septembre dernier. C'est lui qui organise un deuxième sommet le 30 mai à Porto. Et j'espère pour ma part organiser un troisième sommet en France au mois d'octobre. Alors, mais c'est lui le principal porteur du thème, donc je suis très content qu'il ait préfacé mon ouvrage. Il a d'ailleurs lui-même publié un ouvrage sur la remigration en allemand, qui va être d'ailleurs, je crois, traduit en français par les éditions de Rushdie.
D'accord, Julien Rushdie. Donc. Xavier Van Leerde avait une question à vous poser.
Oui. Enfin, une observation. Moi, j'ai d'abord pris ce terme de remigration, qui est certes enthousiasmant, mais comme le symptôme de l'aggravation des problèmes. C'est-à-dire que lorsque j'étais encore jeune, ouvert aux questions politiques, c'était dans les années 80, on pouvait encore penser que l'arrêt de l'immigration suffisait pour une grande part à résoudre le problème, et en tout cas à éviter que la France et puis l'Europe ne périssent sous les effets de l'immigration. Il y avait puisque Jean-Yves Le Gallou est là, il y avait aussi une autre proposition qui était extrêmement enthousiasmante et qui aurait probablement suffi à résoudre le problème, c'est celle de la préférence nationale. Et force est de constater que l'arrêt de l'immigration aujourd'hui n'est plus une solution suffisante et viable, et de même la préférence nationale en fait n'a même plus de sens, puisque l'essentiel des immigrés ne suffirait plus en tout cas à résoudre non plus le problème, sachant qu'énormément, enfin il y a eu tellement de régularisation depuis, et puis surtout une dynamique démographique interne des immigrés déjà présents, enfin les flux se sont transformés en stock, si vous voulez. Et dès lors, je l'ai d'abord pris comme un symptôme de l'aggravation. C'est peut-être l'occasion du coup de poser d'abord le diagnostic, parce qu'on n'est pas pour la remigration comme ça, par principe, mais parce qu'il y a une situation. Quelle est cette situation à laquelle la remigration a l'ambition de répondre ?
Si vous voulez, pour dire les choses simplement, s'il n'y a pas de remigration, que les flux d'entrée continuent. 500 000 l'année dernière. Monsieur Retailleau a explosé tous les records. Hein. 500 000 pour la France. 4 millions sur l'ensemble de l'Europe. Donc si on cumule trois phénomènes. Les flux d'entrée. Le nombre d'étrangers ou de descendants d'immigrés qui se trouvent dans la tranche des 20-45 ans. C'est-à-dire la tranche où, en priori, on fait des enfants. Et le taux de fécondité qui est plus élevé chez les populations étrangères ou issues de l'immigration que dans les populations européennes de souche, à ce moment-là, il y a un basculement démographique qui s'opère à peu près dans chaque pays d'Europe entre 2035 et 2060. Voilà. Et donc, c'est maintenant qu'il faut engager la remigration pour éviter de devenir minoritaire. Et je pense que les Européens, les Blancs européens, devraient vraiment avoir la crainte de devenir minoritaires quand on voit comment les choses se passent en Afrique du Sud, et sans aller jusque-là, quand on voit comment les choses se passent dans les mairies de gauche qui sont prises par des élus
France nouvelle,
issus
comme
d'immigration, la France nouvelle, comme dirait M. Mélenchon, et qui sont chassés un peu comme les Blancs ont tendance à être chassés en Afrique du Sud. Je crois qu'il est temps que les Européens se réveillent.
Oui, alors ça, j'insiste. À quoi il faut ajouter en plus, dans la rapidité qui peut s'opérer, dans le phénomène de je sais pas comment on peut le dire de manière polie, mais bon, de colonisation,
grand
de grand remplacement, oui, c'est aussi le décès à venir, malheureusement, de toute une catégorie de Français dans les 20 ans à venir, toute cette génération baby-boom qui va par définition disparaître, et qui ne sera pas remplacé par des nouveaux blancs, puisqu'on en est à parler de blancs, parce que les blancs font beaucoup, beaucoup moins d'enfants que les autres. Donc c'est l'accélération peut-être stupéfiante.
C'est assez simple. C'est si vous prenez pour la France, vous allez avoir 650 000 décès qui vont croître plutôt chaque année. Au regard de ces 600 000 décès, vous avez, en l'état actuel des choses, 400 à 500 000 entrées, et vous avez environ 300 000 naissances étrangères ou d'origine étrangère. Et donc, vous voyez très bien la bascule qui s'opère.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est assez effroyable.
Et ça, c'est pareil dans tous les pays d'Europe. Hein. Donc là, il faut agir vite.
Ce qui est intéressant, évidemment. Ah, pardon.
Non.
Alors, qui parle
pour décrire ce phénomène, Martin Selner, dans la préface du livre de Jean-Yves Le Gallou, a une très bonne expression. Il parle d'illusion d'optique créée par les classes nombreuses de baby-boomers appelés à s'effacer. Donc, lorsque l'on pense que les populations européennes de souche sont encore largement majoritaires, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est en partie une illusion d'optique, puisque la plupart de ces populations
sur le demi-siècle ont
passé l'âge d'être fécondes. Et que donc, ce qui compte, c'est bien...
C'est les maternités. Il faut aller voir ce qui se passe dans les maternités. Et en région France, en région d'Île-de-France, par exemple, dans les maternités, 70% des nouveau-nés ne sont pas d'origine européenne.
Oui, on le voit aussi dans les écoles.
Richard, dans les écoles aussi, oui.
Oui, ce qu'il y a de tout à fait intéressant dans votre livre, et nous l'avions déjà un peu évoqué, c'est la manière dont cette remigration est évidemment une urgence, mais c'est aussi une méthode éprouvée. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que Martin Selner invente, c'est quelque chose que Martin Selner théorise et dont il rappelle l'actualité, mais en fait, c'est pratiqué continuellement, y compris de nos jours, par plusieurs pays dans le monde entier et depuis des siècles.
L'histoire du monde est marquée par les remigrations qui peuvent prendre des formes différentes. Il y a parfois des remigrations violentes. Hein. Je pense par exemple à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les remigrations en Europe de l'Est de Polonais et d'Allemands n'ont pas été particulièrement douces, puisqu'il y a eu quand même des millions de morts. Il y a des remigrations violentes comme il y a eu à la fin de la guerre d'Algérie où... Il y a 1 million de Français qui ont eu le choix entre la valise et le cercueil. Bon, il y a des remigrations ensuite qui sont forcées sans être forcément aussi violentes. Je vais donner un exemple là, qui est plus convenable. À l'époque du président Eisenhower, il y a eu aux États-Unis une remigration de ceux qu'on appelait les wetbacks, ceux qui avaient le dos mouillé parce qu'ils avaient traversé le Rio Grande à la nage et qui ont été repoussés quand même assez vigoureusement. Mais pas violemment, mais repoussé assez vigoureusement. Il y a beaucoup de remigrations intra-africaines qui se passent quand même dans des conditions plus ou moins aimables, on va dire, mais pas forcément complètement violentes. Et puis il y a des remigrations encouragées, tout simplement, aidées. Et puis il y a même des remigrations volontaires. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a des Allemands de la Volga qui sont repartis en Allemagne. Il y a un certain nombre de juifs soviétiques qui sont partis en Israël. Il y a des Russes du Kazakhstan qui sont revenus dans la Grande Russie. Voilà. Et ça s'est passé, c'était des remigrations volontaires. Donc il y a beaucoup de formes de remigration possibles. Il y a même eu, à l'époque de Giscard, une politique d'aide à la remigration qui a eu un succès relativement limité, puisque le gouvernement de Barre et Giscard d'Estaing souhaitait plutôt faire repartir des Algériens, et ce sont surtout des Portugais qui en ont bénéficié, et les Portugais n'auraient évidemment pas posé, ne posaient pas du tout les mêmes problèmes. Enfin, voilà.
C'est amusant cette constance dans la manière de se tromper. De Gaulle aussi était persuadé avec les accords d'Évian que... beaucoup de Français resteraient en Algérie, alors qu'à peine les accords signés, il n'y avait plus que 30 000 Français en Algérie et il y avait déjà 50 000 Algériens en France.
Ouais.
Donc cette espèce de pertinacité dans la stupidité chez les gaullistes est absolument remarquable.
Oui, alors j'ajoute qu'il y a une forme de remigration tout à fait sympathique et bienveillante, etc. C'est un des exemples que je prends le plus, parce qu'il me semble vraiment opératoire. C'est en Espagne, pendant la crise économique de 2008, où ils ont été, en Espagne, obligés de supprimer un certain nombre d'aides sociales pour les immigrés. Et c'est la première fois qu'on avait vu en Europe, et ça a duré de 2008 à 2012, un solde migratoire négatif. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'immigrés qui quittaient l'Espagne que d'immigrés qui entraient en Espagne. Et ils le faisaient de leur propre chef, sans la moindre violence, simplement parce qu'ils n'y trouvaient plus un intérêt, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas venus par amour pour le pays.
C'est là, effectivement, que la préférence nationale, qui rencontre ses limites avec les naturalisations, comme ça l'a été dit, garde son utilité, car aujourd'hui, on a un ensemble de systèmes économiques et sociaux qui encouragent à l'immigration. Voilà. Je vais vous donner un exemple. On loge et on aide et on nourrit les étudiants étrangers. Eh bien là, on encourage une immigration. Alors, bon, si c'était des étudiants extrêmement brillants, qu'on fasse venir en France quelques étudiants extrêmement brillants, oui, mais ce n'est pas du tout le cas. On a de fait une immigration d'étudiants qui est une immigration d'opportunités que les Français encouragent avec leurs impôts. Avec leurs impôts, puisqu'une partie de leurs impôts servent à faire venir des étudiants, qui sont souvent des pseudo-étudiants, qui n'apportent rien et qu'on fait venir. Donc là, on pourrait effectivement, simplement en remettant en cause un certain nombre d'avantages sociaux, limiter l'immigration nouvelle et même enclencher un flux de retour, de manière tout à fait pacifique.
Paisible, oui.
Puisque, comme le dit Gourevitch, les immigrés font du shopping migratoire, et évidemment qu'il faudrait faire, il faudrait que les pays européens se mettent en concurrence les uns avec les autres pour être le moins attractif possible.
C'est ça, oui.
Alors pour le moment, la France, de ce point de vue-là, est le pays aujourd'hui le plus attractif.
Oui. Et c'est ce qu'on appelle le déplacement, pardon, l'effet de déplacement. En criminologie d'ailleurs, mais alors sans faire aucune comparaison malveillante avec nos amis immigrés.
Non.
Xavier Van Liert voulait intervenir.
Oui, puisqu'on en est au processus de faisabilité, peut-être qu'il y a d'abord aussi, pour que la remigration puisse s'accomplir, un verrou psychologique à faire sauter. C'est-à-dire que on baigne dans une sorte d'univers mental où la remigration ne serait pas légitime. Comment défendez-vous la légitimité de ce projet au-delà d'indicateurs économiques?
Je crois que fondamentalement, la remigration est aussi légitime que la reconnaissance des droits du peuple kanak sur les îles de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que c'est la théorie qui est reconnue par l'ONU d'ailleurs, le peuple premier. Le peuple premier, c'est-à-dire celui qui occupait historiquement un territoire donné, a des droits particuliers à garder son identité, sa culture, ses modes de vie. Alors moi, je trouve tout à fait normal qu'on reconnaisse ce droit aux Kanaks, qu'on reconnaisse ce droit aux Indiens d'Amazonie, mais je pense qu'on doit aussi reconnaître ce droit aux indigènes d'Europe, aux Européens. Et je dois dire que les Européens, quand on nous dit parfois que nous sommes des pays d'immigration, c'est tout à fait faux. Le peuplement européen, il n'a pas bougé depuis 5000 ans. Voilà, il n'a pas bougé depuis 5000 ans. Il remonte à 40 000 ans avec les chasseurs-cueilleurs, avec les agriculteurs anatoliens, puis avec l'arrivée des Indo-Européens il y a 5000 ans. Depuis, le peuplement européen n'a pas changé. Il n'a pas changé jusqu'en 1960, avec l'arrivée, d'abord en Grande-Bretagne et en France, parce que c'est les premiers pays qui ont été concernés, d'une immigration africaine, musulmane ou maghrébine.
Oui, parce que même au XIXe siècle et au début du XXe, quand on nous parle des premières grandes vagues d'immigration, ou même si on remonte à ce qu'on n'appelle plus d'ailleurs les grandes invasions, qu'on a appelées grandes invasions jusqu'à il y a une vingtaine d'années, qu'on appelle maintenant les grandes migrations, avec d'ailleurs un côté un peu gênant, je trouve.
Oui, alors
côté discriminant pour les Gaules, les Visigoths et les Alamans.
Deux choses. D'abord, effectivement, les immigrations intra-européennes ne posaient évidemment pas de problème. Quand M. De Vecchio explique que les immigrés pouvaient s'assimiler, oui, bien sûr, les immigrés italiens, les immigrés polonais, les immigrés espagnols, oui, le problème ne se posait pas. Donc la différence, c'est ça. Quant aux grandes invasions, alors il y aurait beaucoup de choses à en dire.
Les grandes migrations.
Les grandes migrations, si vous voulez. En fait, c'est assez drôle parce que ça touche quelques pourcents de population sur quelques siècles. Et intra-européens. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre de Francs qui sont arrivés sur une population gauloise. Alors ça a eu une certaine influence dans la constitution des nations, en termes de langue, en termes de culture, mais en termes de stock de population, ça n'a pas changé grand-chose, parce que c'était à peu près les mêmes. Voilà la réalité. Et donc là aussi, c'est une mauvaise comparaison.
Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur le terme remigration? Donc, si j'ai bien compris, c'est un terme qui apparaît avec le Vlaams Belang, donc un parti identitaire néerlandais, flamand.
Oui, la source que j'ai trouvée, c'est remigratie, qui est un terme effectivement flamand, qui a commencé à être utilisé il y a une trentaine d'années.
Et ensuite, il arrive en France, dans les années 2010 avec la mouvance identitaire, donc génération identitaire, bloc identitaire encore avant.
En 2014, il y a eu une conférence, ou un colloque, ou un forum sur la remigration. Damien Arieux était d'ailleurs présent.
Vous avez meilleure mémoire que moi.
Ah oui, bah, je vous assure. C'est le début de l'arrivée du terme en France. Et puis après, il a été beaucoup popularisé par Martin Selner, effectivement. Ouais. Pas seulement dans la sphère germanique, mais dans l'ensemble de la sphère européenne.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Vous voulez
je me souviens avoir une réunion de... On dit de, en français de...
Remue-ménage.
De remue-ménage, voilà. où on cherchait justement ce mot. Et donc, il y avait amigration, démigration, etc. Et on a fini par accoucher de remigration, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait peut-être pas d'autres personnes qui l'avaient trouvé avant. Mais en tout cas, on était persuadé de l'avoir créé à ce moment.
Les mots sont faits pour être créés, circulés, et généralement, ils apparaissent à plusieurs endroits
au même moment. Ouais.
Un peu au même moment. Quoi.
C'est comme la roue.
Il y a eu tout un
C'était
débat.
Aussi nécessaire que la roue de forger le concept de remigration.
Il y a eu tout un débat, cher Pierre-Alexandre, avec l'un de vos prédécesseurs, Henri de Lesquin, qui estimait que du point de vue de la langue française, on devait dire ré-émigration. Voilà. Mais remigration a l'avantage d'être beaucoup plus facile à traduire dans beaucoup d'autres langues. Oui. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de dire que mon livre est déjà traduit, le livre sur la remigration, est déjà traduit en espagnol, en italien, en anglais.
En flamand,
et qu'il va être encore traduit en serbe et dans quelques autres idiomes européens.
Bon, bah c'est bien. Alors les Serbes, voilà. Non.
Mais c'est un problème européen,
vital.
Donc c'est normal. Ouais. Que le même thème, le même terme circule par-delà nos frontières.
C'est le cas de le dire, oui.
Alors, nos frontières intérieures.
Intérieures, voilà.
Voilà.
Il y a un autre thème. Je crois que Xavier Van Dierde voulait prendre la parole.
Non, je voulais faire la remarque. Auparavant, on aurait pu parler de ré-émigration, car la France était confrontée à un phénomène d'immigration. Mais maintenant, on parlait d'ailleurs plutôt d'immigrés. Maintenant, on parle de migrants, donc remigration, c'est très bien.
Maintenant, on parle de français, mon cher monsieur, comme vous et moi.
C'est aujourd'hui le terme le plus fréquent, mais on pourrait en trouver d'autres concurrents sur cette même antenne, et je crois dans lundi dernier, dans la même émission. Notre ami Yvan Rioufol proposait rapatriement. Oui. Rapatriement pour souligner qu'on renvoyait les gens dans leur patrie et que donc c'était absolument pas dramatique. Renaud Camus, de son côté, lui insiste sur le fait que nous ne sommes plus confrontés à de l'immigration mais à un phénomène d'invasion-colonisation et donc prône plutôt la décolonisation. Voilà, bon, en tout cas, on tourne toujours autour de la même réalité. Si on n'agit pas, nous deviendrons minoritaires et c'est une catastrophe. Et une catastrophe, comme l'a dit Jean-Yves Le Gallou, qui est inédite de notre histoire, puisque, en fait, elle ne sait. Un tel bouleversement démographique ne s'est simplement jamais produit sur le continent européen, ce qui donne le vertige et montre à quel point, effectivement, non seulement c'est une nécessité, mais c'est une tâche immense, c'est la grande tâche à laquelle on ne pourra pas se dérober, en réalité, sauf à trahir l'entièreté de notre histoire. Voilà, c'était des remarques, pas des questions.
Ouais, alors moi, j'ai une question, justement. Sémantique, c'est-à-dire que le terme remigration a pris, s'est installé, et comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, il a vocation à devenir un mythe fondateur pour les générations d'Européens qui vont nous succéder. Néanmoins, juste pour pinailler, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'histoire de ce mot? Est-ce qu'il le distingue de ce qu'on a appelé successivement au fil des années l'aide au retour, l'expulsion pure et simple, qui était un terme juridique, mais qui avait le mérite d'être compréhensible? Et puis, plus proche de nous, je crois que c'est les années 90, ce que le FN, Front National, appelait tout bêtement l'inversion migratoire. Est-ce qu'on pourrait revenir sur chacun des termes pour comprendre ce qui les distingue du concept de remigration?
Alors, je crois que la remigration, ça envisage toutes les formes de retour. Hein, ça envisage les retours encouragés, les retours volontaires, les retours choisis. Ça n'exclut pas les retours forcés. Voilà, ça envisage toutes les formes de retour. Alors, est-ce que c'est très différent de l'inversion des flux migratoires? Je trouve que l'inversion des flux migratoires que j'ai utilisé dans des temps anciens, c'est un terme un peu technocratique.
C'était vous l'inversion migratoire?
Je l'ai utilisé,
décidément,
je ne sais pas si
j'en suis l'inventeur,
mais j'ai utilisé, oui, au FN, c'était un terme qui était utilisé il y a 30 ans à peu près. Voilà, c'est un terme un peu technocratique. La remigration, je pense que c'est un peu plus global, et ça comporte aussi une vision positive des choses. Je pense qu'il faut bien comprendre ça. Une vision positive de le point de vue des Européens, du point de vue des Européens d'aujourd'hui, qui pourraient ainsi retrouver une certaine tranquillité, et du point de vue des Européens d'hier, comme des Européens de demain, qui pourraient voir assurer la continuité de leur civilisation.
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ?
Non, mais je ne sais pas si dans le livre que je n'ai pas eu encore le temps de lire, vous abordez la question de la remigration positive, c'est-à-dire tous les biais d'incitation qui me paraissent les plus faciles à mettre en place et je dirais ceux qui, en termes d'image et de popularité, ne poseront le moins de problèmes. Parce que quand on voit quand même les réticences avec la politique qui a été mise en place aux États-Unis rien que pour expulser les clandestins, on peut se dire qu'en France, ça serait bien pire au niveau émotionnel et que donc, ça serait très difficile à mettre en place. On voit que le gouvernement américain propose une aide jusqu'à 2 600 $ plus un billet d'avion pour partir de manière volontaire. Moi, je pense que c'est bien trop faible. Il faudrait proposer 26 000 $, ce que ça coûtera toujours moins cher aux contribuables. Et donc, voilà, ce que je trouve que ce qu'il faudrait pousser, c'est cette remigration positive qui existe déjà. Il y a déjà l'aide au retour, il y a des aides de l'Union européenne, il y a des aides françaises qui existent. Il faut simplement rajouter un zéro pour mettre le prix, pour motiver ces gens à partir. Mais on pourrait aussi l'évaluer sur ce que nous coûtent ces personnes en frais, on va dire, allocation familiale, aide au logement sur 10 ans, et que ces gens partent avec un capital de 10 ans d'aide sociale, partent relancer une entreprise, fonder une nouvelle vie dans un pays où ils ont des attaches culturelles plus fortes que la France. Partir avec un capital comme ça, ça serait énorme pour eux, avec le différentiel en plus de niveau de vie, ça serait encore 10 fois plus important que ici. Pour nous, ça nous obligerait à continuer à payer pendant une dizaine d'années, mais à terme, on solderait les comptes. Et je pense que c'est, je dirais, la meilleure manière, la plus humaniste, la plus acceptable, la plus gagnante-gagnante, et donc peut-être la plus réaliste.
Alors, moi, je crois qu'il faut garder toute la palette des mesures. C'est vrai que la première palette de mesures, c'est déjà de couper les incitations. C'est ce qu'on appelle la préférence nationale. On coupe les incitations. Ensuite, on peut effectivement créer des incitations à repartir. Il faut quand même être très sûr que ceux qu'on incite à repartir en les payant ne reviennent pas après.
Ça nécessite des frontières.
Il y a déjà eu de l'aide de ce type. J'ai parlé
avec les Roms, notamment.
Avec les Roms, beaucoup plus récemment. J'ai cité les aides Giscard, Barr, Stolru. Mais il y a eu des aides beaucoup plus récentes avec les Roms. Et il y a encore actuellement, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a encore des aides en Allemagne, en France, avec l'aide de l'Union européenne. Oui, alors, qui ne sont évidemment
peut-être pas... C'est de l'intra-européen, donc forcément...
Qui ne sont peut-être pas les aides auxquelles, qui existent actuellement. Hein. Les aides qui existent actuellement, elles ne sont peut-être pas à l'échelle, elles ne sont pas assez incitatives. Mais je crois qu'on ne peut pas exclure, par principe, le recours à la force. Ça peut paraître dur de dire cela, mais j'emprunte la formule à un ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui a dit « un jour, le recours à la force sera inéluctable ». Je ne crois pas qu'on puisse exclure, et je crois...
Qui a dit ça ?
Je ne retrouve plus... Védrine, voilà.
En parlant de qui, il parlait de qui exactement ?
Il parlait de l'arrivée de migrants en 2015.
De clandestins.
De clandestins. Un jour, le recours à la force sera inéluctable. Honnêtement, le recours à la force pour le million de clandestins, c'est pas rien, qu'il y a aujourd'hui, il est légitime. Ce sont des gens qui ont contrevenu à nos lois. On met des gens en garde à vue pour une banderole, on peut peut-être faire repartir des gens qui sont entrés illégalement sur le territoire français.
Alors, ça veut dire, l'un n'exclut pas l'autre. C'est intéressant, cette idée, effectivement, d'une espèce de prêt au départ, quoi, parce que, objectivement, c'est vrai que si on leur garantit une rémunération, en fait, qui pourrait, effectivement, dans leur territoire, valoir l'équivalent de 10 mois de salaire par mois... Mais si j'étais eux, je partirais. Voilà, je le dis sans a priori et sans parti pris.
Il ne faut quand même pas se faire d'illusions. Toute politique de remigration, quelle qu'elle soit, suscitera une hostilité majeure des lobbies subventionnés.
Oui, mais peut-être pas les concernés. Si on leur dit, effectivement, vous partez, et si vous ne revenez pas, vous gagnez de l'argent pendant 10 ans, c'est quand même l'occasion pour eux de créer des entreprises, d'aider leur village. Enfin, ils peuvent être les rois du pétrole.
Enfin, 10 ans, c'est beaucoup quand même.
Hein. Oui, 10 ans, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est vrai que le principal écueil, c'est comment les empêcher de revenir. Ça, c'est...
À mon avis, c'est des systèmes de reconnaissance faciale et ADN. Hein, voilà.
Mariani avait proposé les tests ADN pour les immigrés.
C'est partie des...
Moi, je ne crois pas qu'on voit que les États-Unis ont suspendu le programme ICE, ou ont vraiment freiné, en tout cas. En fait, il y a une chose qui n'existait pas du temps de M. Vedrine, c'est tout simplement que tout le monde a un téléphone, qu'il y a de l'image, et qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de supporter l'expulsion d'une famille.
En 2015, il y avait déjà les téléphones. Hein. En 2015, c'est la vision du petit Aylan sur un port turc qui a... mis en branle toute l'invasion.
Mais je pense que les gens ne sont pas prêts à voir des familles de clandestins partir par la contrainte. Je pense que l'image...
Oui, mais à ce moment-là, on ne fera rien. Voilà, c'est possible. Hein. C'est une hypothèse tout à fait...
Alors, peut-être sur du délinquant, du criminel, ça peut fonctionner. Et encore, parce que même aux États-Unis, sur du délinquant, du criminel, ils doivent encore se battre contre l'extrême-gauche et contre les médias qui pleurent. Mais alors, si les gens ne sont pas délinquants et criminels, enfin, plus délinquants que d'avoir franchi la frontière illégalement, j'ai peur vraiment que ce soit une utopie. Et c'est pour ça que
Faut préparer l'opinion. Préparer l'opinion. Et encore, alors, si vous voulez, là-dessus, on est très en retrait, parce que en Angleterre, il y a un parti qui va être candidat aux élections, Human Bretagne, qui a un député, qui a un parlementaire, un MP, qui a publié un rapport qu'il a intitulé, je ne reprends pas le terme à mon compte, hein, je le précise, Mass Deportation. Voilà.
Oui, mais parce que le mot en anglais n'a absolument pas le même sens.
Le mot en anglais n'a pas le même sens qu'en français.
N'a pas les mêmes résonances, en tout cas.
Non, n'a pas les mêmes résonances. Mais enfin, si on ne pose pas ce genre de questions, on va être submergé. Voilà. C'est pas compliqué.
Il y a encore plus qu'aujourd'hui.
Ah bah encore plus, si vous voulez, encore plus qu'aujourd'hui. Puisque, si vous voulez, l'an dernier, vous avez eu 500 000 entrées.
Hein, c'est-à-dire donc l'équivalent d'une grande ville. Quoi, hein.
10% de plus que l'année d'avant. Voilà. Avec M. Retailleau, dont chacun connaît la fermeté.
Alors, Xavier Van Lierde voulait intervenir, et ensuite j'aimerais bien justement qu'on revienne sur cette question de la légitimité de la remigration. Xavier.
Oui, ce que je trouve intéressant dans l'idée de remigration, c'est qu'il s'agit d'agir sur les grandes masses. Et là, je pense qu'en réalité, tout le monde est d'accord pour agir sur les grandes masses. Le problème va se poser, c'est lorsqu'on va être confronté à tel ou tel cas particulier. En fait, depuis le début, c'est toujours avec des cas particuliers sur lesquels on nous fait pleurnicher, qu'on nous fait accepter le phénomène dans son ensemble. Ne faut-il pas alors rappeler que mettre en place une politique de remigration ne signifie pas qu'il y aura des exceptions. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui ont éventuellement vocation à ne pas être remigrés. Et voilà, ça me semble un point clé pour faire accepter le processus d'action sur les grandes masses, c'est d'admettre qu'il peut y avoir des exceptions dans ce processus.
Accessoirement, la première étape de la remigration, c'est l'arrêt de toute immigration nouvelle. C'est ça la première étape. Parce qu'à partir du moment où on arrête toute immigration nouvelle, il y a déjà un flux de remigration qui s'opère. Vous avez cité l'exemple espagnol
oui.
De 2008 à 2012. À partir du moment où il y a un arrêt de toute immigration nouvelle, on engage le processus. Mais il faut savoir que, du point de vue juridique, commencer la remigration de ceux qui sont là et qui n'ont pas de raison de rester n'est pas plus compliqué juridiquement dans l'état actuel de l'état de droit, c'est-à-dire de la dictature des juges, qu'arrêter purement et simplement l'immigration. Aujourd'hui, arrêter purement et simplement l'immigration est impossible sans une révolution juridique, politico-juridique.
On va y venir après. Tout à l'heure, oui. Il y avait quand même la question de cette légitimité, et je redonne la parole à Xavier juste après, mais il faut effectivement peut-être faire comprendre aux gens qu'il est légitime de faire repartir une catégorie de population qui, en fait, ne nous apporte pas forcément grand-chose, qui n'a pas un apport réel au bien-être et au rayonnement de la nation française et du peuple français, qui ne nous aime pas par-dessus le marché. Et alors, comment dirais-je, la Gaule a été colonisée par les Romains. Objectivement, personne ne s'en plaint. Les Romains,
C'était pas une colonisation de peuplement. C'était pas une la différence. Il y a deux formes de colonisation.
Mais c'est surtout que c'était une colonisation positive pour le coup.
Et voisine.
Oui, mais il faut distinguer en termes de colonisation. La statuaire.
Il faut distinguer les colonisations de protectorat, où vous avez des petites élites qui prennent en partie le contrôle du pays, ce qui a été la colonisation effectivement romaine, ou ce qui a été la colonisation européenne en Afrique, de la colonisation de peuplement, où vous avez un remplacement de population.
Oui, mais alors je dirais presque pire, tel un Dupont et Dupont, il y a une colonisation de civilisation qui nous apporte quelque chose, il y a une colonisation d'exploitation économique qui peut être éventuellement ce que nous avons fait nous dans les pays d'Asie ou d'Afrique ou dans le monde, ou même en Amérique d'ailleurs, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même les Européens qui sont allés les premiers là-bas. Et quels que soient les torts de la colonisation française ou européenne dans les autres pays du monde, nous avons objectivement apporté du positif. C'est-à-dire on a fait augmenter la natalité, on a fait augmenter l'espérance de vie, on a apporté des routes, des puits, de la médecine, de l'éducation, de la scolarisation, on a aboli l'esclavage, on a fait quand même des choses qui sont comptables dans un bilan. Donc il y a une colonisation de civilisation, une colonisation d'exploitation éventuellement économique, mais à quoi on peut opposer ce que vous appelez vous-même d'ailleurs, la colonisation de prédation.
De prédation, absolument.
Et là, c'est autre chose, c'est-à-dire on a le droit quand même de refuser un peuplement, l'installation de populations qui, objectivement, à côté de tout ce qui nous apporte, et pourquoi pas, si on aime le couscous, le mafé, les cheveux, les coiffures afro, ils peuvent apporter tout un tas de choses positives, et c'est sûrement le cas pour plein de gens. Mais il y a aussi une colonie, enfin il y a un peuplement, pardon, qu'on peut juger néfaste à nos intérêts. Et ça, c'est pas illégitime de le dire. La sécurité des femmes, par exemple, c'est un grand sujet. Ça, c'est pour le coup nos amis de Némésis, là, le matraque, et se font matraquer en retour lorsqu'elles évoquent le fait que, objectivement, quand on est une femme européenne avec une mentalité de femme européenne, c'est-à-dire un goût pour la liberté, liberté de circulation, liberté de parole, liberté
de tenue,
liberté aussi d'avoir des enfants ou pas, par exemple, bon, pourquoi pas, eh bien, c'est très difficile d'évoluer dans des quartiers où il y a de moins en moins d'Européens. Et alors, j'ajouterais même qu'on a une journaliste à Radio Courtoisie qui enquêtait sur des phénomènes en banlieue et qui a rencontré un policier. Et le policier lui a dit, bah, idéalement, il faudrait aller voir à Sarcelles. Et elle dit, ah ben, je vais y aller. Et je lui dis, mais non, surtout n'y allez pas. Vous ne pouvez pas aller à Sarcelles si vous êtes une femme blanche, si vous êtes seule et avec un blanc. Vous devez y être accompagnée d'un noir ou d'un arabe. C'est un policier qui lui a dit ça.
C'est ce qu'on appelle un fixeur.
Oui,
dans les zones de guerre,
un protecteur. Ouais. C'est en France. C'est hallucinant. Donc, ce peuplement hostile, il existe et on a le droit de ne pas le souhaiter, j'ai l'impression, non. Donc ça, est-ce que c'est pas être un, ça ne peut pas être un argument à faire valoir progressivement? Alors j'imagine qu'on le fait déjà.
Je reviens à ce que je disais au départ. Il faut cesser de se placer du point de vue du migrant, du point de vue du droit de l'étranger à venir, du droit à. Il faut se placer du point de vue du peuple d'origine, à garder son identité, à garder sa sécurité, à garder sa tranquillité. C'est une inversion de perspective, sinon on restera dans la logique dominante et on ne pourra pas faire grand-chose. Parce que, au fond, si on interrogeait ici M. Retailleau, il nous dirait qu'il n'avait pas pu faire autre chose que ce qu'il a fait.
Il dirait surtout ce qu'on veut entendre et puis il partirait, ouais. Il ferait autre chose. C'est vrai.
Et je dis, M. Retailleau, c'est pas le pire
non,
du tout.
Non, mais bien sûr, voilà, c'est Darmanin, Sarkozy et tous ceux qui ont précédé. Xavier Van Lierde voulait réagir à nous.
Oui, non, mais on passe en revue les mythes qui pourraient contrarier ce désir néanmoins partagé, parce que je reste convaincu que la plupart des gens, en réalité, sont pour une inversion des flux migratoires. Sauf qu'ils viennent à chacun avec leur exception, les exceptions finissent par faire des légions, mais je pense qu'il y a aussi un mythe à remettre en cause, c'est cette idée selon laquelle on s'en prendra à des gens qui ne connaissent plus, qui n'ont plus aucun lien avec leur pays d'origine, qui ne connaissent que la France, etc. Ce qui me semble en réalité parfaitement faux. Enfin, moi, ce que je peux constater, c'est que la plupart des immigrés, notamment africains, d'une part, sont arrivés, ceux-là, d'Afrique subsaharienne, de façon récente. Ils passent leur temps à envoyer de l'argent à leur famille restée au pays, preuve qu'ils conservent encore des liens. Ils font venir leurs épouses, ça, c'est le cas pour les maghrébins aussi. De nombreux, ils vont en vacances là-bas.
Ils choisissent des femmes là-bas.
Servent des liens avec leur famille. Ils choisissent des femmes
ou des
là-bas.
Maris.
Et qu'ensuite, ils font venir, ce qui renforce le phénomène de peuplement. Donc, cette idée selon laquelle... on renverrait des gens dans un pays qu'ils ne connaissent pas est absolument, absolument bidon en réalité. Et c'est quelque chose que, à mon avis, tout le monde n'a pas encore très bien perçu. Voilà, c'était une fois de plus une remarque et pas une question. Reste que il y a beaucoup de verrous quand même mentaux. Hein. J'ai l'impression qu'en réalité, moi, c'est pas la faisabilité logistique ou autre qui m'inquiète le plus. C'est la capacité
à faire admettre
que c'est légitime. Voilà.
Le pourquoi est la clé du comment. Si on sait pourquoi il faut le faire, et il faut le faire pour la tranquillité des Français et des Européens d'aujourd'hui, et pour la continuité de leur civilisation dans l'avenir. Si on sait pourquoi le faire, on pourra légitimer le comment. Si on ne sait pas légitimer le pourquoi, on ne pourra pas faire le comment.
Damir, il y a une réaction, une question.
Oui, il y a aussi le lien avec le pays d'origine. Ça peut être quelle équipe de football on supporte, où on voit souvent que l'allégeance est révélatrice. Ça peut être aussi les éloges qui sont faits sur le pays d'origine, qui est parfait, qui est mythifié totalement. Ouais. Et puis, c'est aussi les vacances. C'est-à-dire que la proposition de rentrer chez soi, c'est une proposition d'avoir des vacances toute l'année, en fait, puisqu'on a parfois affaire à des populations...
Ça, c'est pas mal.
On a affaire à des populations qui, effectivement, rentrent
au bled,
un mois, deux mois. Et donc, c'est une proposition d'extension de ces vacances, qui me paraît là aussi être la remigration positive.
Votre générosité vous honore, Damien Rie. Bravo.
De rien.
Non, c'est alors, sûr. On a beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie qui ont des idées ou des questions à poser à Jean-Yves Le Gall.
Ou d'acerbes critiques. Je vous trouve bien naïf. Vos propositions ne serviront à rien. La seule chose qui a
tout
fonctionné, c'est quand les Algériens t'ont dit aux Français, vous avez 48 heures, c'est la valise ou le cercueil.
Ah, Jean-Yves Le Gall l'a un peu dit, de manière moins brutale que
Il y a un certain nombre de remigrations qui, effectivement, se sont faites comme cela. Ça, c'est sûr, oui.
La proposition d'indemnité de retour de votre invité ne marchera pas. La personne prendra l'indemnité et reviendra en France le lendemain parce que la communauté européenne l'invalidera.
Légalement, je ne vois pas en quoi elle peut être invalidée. Il faut avoir des frontières pour prendre cette mesure, sinon ça ne sert à rien.
Absolument.
Je ne vois pas en quoi ce serait illégal.
Oui, absolument.
S'assurer d'un non-retour implique un fichage qui sera contraire aux droits de l'homme. On peut ficher les gens, sauf les participants au programme de Davos.
Je voudrais répondre tout de suite parce qu'en fait ça m'exaspère. C'est-à-dire qu'on nous explique que dans l'état actuel du droit, ce n'est pas possible. Mais le projet consiste précisément à changer les lois et le droit. Donc,
on va y venir juste après.
Et la vision des choses, bien sûr.
Damien, vous voulez réagir?
Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Allez-y, mais
je voulais dire sur la remigration. Je trouve qu'il y a un biais, c'est que la remigration aujourd'hui est qualifiée et vue comme quelque chose d'extrémiste. Et moi, ce que je trouve extrémiste, c'est le statu quo. C'est continuer dans cette direction qui est extrémiste, c'est continuer dans cette direction et si on prolonge toutes les courbes démographiques, si on prolonge la hausse de l'insécurité, si on prolonge la destruction de la confiance interpersonnelle, la destruction des liens sociaux... Eh bien, c'est vers quoi? C'est vers la libanisation, vers la haine du tous contre tous, vers la violence. Et donc, en fait, l'extrémisme, c'est de continuer dans cette direction. Et je crois qu'on arrivera à changer ça quand la remigration positive, en tout cas comme je la vois, apparaîtra comme une solution de paix, une solution de résolution des conflits, et non une solution brusque et inhumaine. Et je crois que tout l'enjeu, il est d'inverser la notion d'humanisme et de montrer, d'essayer de prouver et de convaincre que l'humanisme n'est pas dans la continuation de la situation actuelle et sa dégradation.
Ouais, parce que ça, c'est de la lâcheté en réalité. C'est-à-dire que poursuivre, accompagner cette situation, en fait, c'est simplement de la lâcheté devant la responsabilité d'un politique qui, en théorie, est là pour gérer les grands nombres, les grands bataillons, et avoir un peu de courage. Là, moi, je plussois ce que dit Damien Rieu. Je suis pour l'aide au retour prolongée. Vraiment, ça me semble...
On va cotiser tous les deux.
C'est le discours d'Enoch Powell en mai 1968, en disant le rôle d'un homme d'État, c'est de discerner les drames à venir pour les empêcher.
Ben oui.
Et il est évident que la politique actuelle, qui consiste à faire entrer 500 000 personnes par an.
Tout en disant, pour l'instant, nous sommes côte à côte et demain, nous serons face à face. Oui, ils le savent, ils le voient.
Ils le savent, évidemment.
Et ils continuent. Ils c'est le de savent. La folie.
Oui, ils le savent depuis longtemps. Ils le savent depuis longtemps.
Xavier, et ensuite on reprend les messages d'auditeurs qui sont nombreux.
Je voulais réagir à cette idée que ça proviendrait de la lâcheté. Alors, c'est vrai, pour une large frange de nos élites politiques, c'est par lâcheté qu'ils laissent ce processus se poursuivre. Mais on constate depuis quelques années maintenant que pour d'autres, c'est purement et simplement de la malveillance. Lorsque Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise nous promettent un avenir créolisé, il entre dans cette promesse et dans cette perspective beaucoup de ressentiment, beaucoup de haine, de la haine de la France, de la haine des peuples européens. Et je pense que ça peut peut-être contribuer quand même à éveiller les populations autochtones, de réaliser que voilà, nous sommes déjà des cibles en réalité. Et dans le discours de ces personnages, cela devient très visible. J'étais quand même très frappé de voir la façon dont des maires, pourtant de gauche, battus par des LFistes déjà d'origine extra-européenne, se font raccompagner à la sortie, humiliés.
Sous les huées, oui.
Oui, sous les huées, ou suivis jusque dans le parking, où, moi j'ai vu une scène où tenant un maire PS, je ne sais plus si au Blanc-Ménil ou ailleurs. À Creil, et donc une personne visiblement d'origine étrangère le suit en lui rappelant « Jean-Claude, au revoir Jean-Claude ». Et elle ressasse comme ça son prénom, visiblement, parce que comme il évoque la France d'avant, eh bien elle se repaît de la façon dont il est chassé. Donc il n'y a pas que de la lâcheté. Chez beaucoup d'autres, il y a d'ores et déjà une énorme malveillance, énormément de haine, et ça va dans le sens de ce que disait Damien Rieu.
Moi, je parlais de la lâcheté de nos dirigeants. Je parle de la lâcheté de nos dirigeants. Que les autres aient de la haine envers nous, oui, ça, malheureusement.
Dans beaucoup d'élites, il y a une haine des peuples européens, y compris dans les élites économiques. Il suffit d'ouvrir les publicités, le modèle qui est promu. Il n'y a pas que de l'amour du multiculturel. Il y a aussi de la haine pour les peuples autochtones.
Ah oui, mais alors chez nous, chez les Blancs en général, il y a aussi malheureusement une immense pulsion de mort qui se traduit, comme je le dis souvent, avec le véganisme, avec le wokisme, avec les LGBT, avec à peu près tout, le transgenreisme qui confine, et l'antiracisme dévoyé comme ça, qui consiste en gros à vouloir la disparition de ce que nous sommes au profit d'autres formes de vie.
La matrice, c'est l'antiracisme d'ailleurs.
Au début, oui.
Après, ça s'étend à d'autres variétés. Voilà.
Damien Rieu.
Je dirais que sur Jean-Luc Mélenchon, plus que la malveillance, c'est l'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait très bien que sa seule chance, à son âge avancé, de prendre le pouvoir, ce serait un chaos, une séquence d'émeutes. Donc il joue, c'est son intérêt. Aujourd'hui, de l'extrême gauche n'a aucune autre manière de reprendre le pouvoir que ce chaos migratoire et que ce remplacement électoral. Donc, malveillance, oui, mais chez Mélenchon, je dirais lui-même, je dirais plutôt intérêt.
Et d'ailleurs, je reste un peu effaré. Alors, on s'étonne toujours tous les jours, mais quand il dit tout blanc, tout moche,
il n'est pas poursuivi.
Phénoménal. Alors, déjà, il n'est pas poursuivi, mais il est lui-même blanc. Je ne dirais pas s'il est moche ou pas, mais. C'est incroyable quand même. Alors, on dirait qu'il s'est auto-assimilé aux autres.
Est-ce que Jean-Yves, en cas de procès, parce que bon, j'ai réfléchi, je crois que la griffe a porté plainte, mais contre ses propos, est-ce que ça jouerait pour lui dans un procès le fait d'être blanc? Est-ce que ça le protège d'une accusation en racisme anti-blanc et d'une condamnation en racisme anti-blanc, vous pensez, ou ça ne changerait rien?
Ça dépend de ce que veulent faire les juges. D'abord,
c'est le propos qui compte.
Doute qu'il soit poursuivi. Je doute qu'il soit poursuivi, et si moi, un jour, je suis poursuivi, ce qui pourrait arriver, ce qui m'est déjà arrivé, et que M. Mélenchon n'a pas été poursuivi, ou que dans une autre affaire, M. Bilongo n'a pas été poursuivi, je commencerai par féliciter le procureur en disant « Vous avez respecté la liberté d'opinion, ce sont des opinions que je ne partage pas, vous avez respecté leur liberté d'opinion, c'est très bien, mais respectez la mienne et respectez les nôtres. » Voilà. Parce que je pense qu'une des premières étapes du redressement.
Alors arrivons à cette modification.
C'est l'abrogation évidemment des lois liberticides et c'est la suppression de toutes les subventions à toutes les associations nuisibles, parce que l'état de l'opinion dont parle Damien Rieu à juste titre, elle n'est pas spontanée, l'état de l'opinion, elle est fabriquée par tout un ensemble de tissu associatif financé très largement, voire principalement par l'argent public. Donc, parmi les étapes indispensables, parmi les choses indispensables, il y a à la fois abroger les lois liberticides qui permettent, qui empêchent de s'exprimer librement, et il y a aussi supprimer les subventions à toutes les associations nuisibles.
C'est ce que il y a un passage, un chapitre même que vous appelez le jugexit.
Alors ça, c'est encore autre chose.
Ça, c'est le fait de sortir de la, je sais pas comment on peut dire, pas de la dictature, parce que c'est peut-être un grand mot, mais de la domination du juridique sur le politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de séparation des pouvoirs. Ça, c'est un point important.
Ben, le pouvoir essentiel, si vous prenez deux domaines sur l'immigration. Le regroupement familial, c'est le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui décident. La législation sur l'immigration, sur tous les sujets, c'est le Conseil constitutionnel. Il y a eu une loi qui était un bricolage, une loi faite par accord entre M. Darmanin et M. Retailleau, et votée d'ailleurs par les députés RN, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Le regroupement familial, c'est le Conseil d'État qui décide. Le droit d'asile, c'est la Cour nationale du droit d'asile qui décide. Ce sont des gens totalement inconnus du grand public. Totalement. Vous ne savez pas qui est M. Andrieux ?
Non.
Monsieur Andrieux, qui est le président de la Cour nationale du droit d'asile, il fait rentrer 60 000 personnes par an. Voilà. Ouais. Par ses jurisprudences.
En fait, ce qu'il faut faire.
Et donc, il faut rendre le pouvoir en matière
politique,
au législateur. Ouais. Le législateur pouvant être le peuple par référendum, ou le peuple à travers
ses
représentants au Parlement.
Donc,
mais
en fait,
il faut le retirer au juge.
Ce que
c'est
vous appelez
le
juge exit, ça revient. En fait, à revenir finalement à l'esprit des lois de Montesquieu, c'est-à-dire
à faire
une véritable séparation des pouvoirs qu'on a totalement négligée, puisqu'aujourd'hui, on a tellement voulu protéger le juridique du politique qu'on est arrivé à l'effet inverse. C'est-à-dire que le juridique domine le politique. Damien Rieu.
Ah, mauvaise nouvelle aujourd'hui, puisque Mélanie vient de perdre son référendum sur la justice, qui est exactement ce dont vous êtes en train de parler. Par la voie référendaire, elle n'a pas réussi à changer ça, à dépolitiser la justice, à la rendre plus neutre. Et donc, c'est quand même un précédent assez inquiétant, parce qu'on peut se dire quand même qu'elle avait des leviers pour y arriver. Alors, il est dit dans les analyses que l'électorat de droite ne se déplace pas pour les référendums en Italie et que l'électorat de gauche a été surmotivé aussi pour sanctionner dans un cadre d'opposition.
Alors,
mais en tout cas,
ça
n'a pas marché.
Je pense que le référendum de Meloni ne portait pas exactement sur la même question.
Il y avait plusieurs parties, mais il y avait une partie dépolitisation des juges, en tout cas dans l'objectif.
Mais indépendamment de la dépolitisation des juges, il y a le pouvoir des juges. Est-ce que le Conseil constitutionnel, il a le droit aujourd'hui de censurer toutes les lois ? Ça, c'est à mon avis totalement illégitime. Même si les 9 juges étaient de droite, ce ne serait pas davantage légitime, ce ne serait pas démocratique. Et donc, je crois qu'il y a une manière de poser la question par référendum sur... qui a le droit de faire la politique d'immigration ? Est-ce que c'est le peuple par référendum qui prend des décisions, qui légifère sur le fond ? Ou est-ce que c'est les juges qui continuent ? Ou est-ce que c'est les parlementaires qui décident ? Je crois que c'est un peu indépendant de la politisation des juges. Ça va au-delà de la politisation des juges. Mais je reconnais que le résultat du référendum italien n'est pas encourageant. Mais je ne pense pas que ce soit le même type de question. Ce n'est pas ce que j'appelle le juge exit. C'est différent.
Alors, Xavier Van Lierde voulait rebondir. Mais ensuite, on va relire une rafale de questions parce qu'elles s'accumulent dangereusement.
Oui, je regrette aussi que le référendum n'ait pas réussi en Italie, mais j'en déduirais pas qu'il ne fonctionnerait pas en France, parce que je crois qu'en Italie, les juges ont une image extrêmement positive qui date de l'époque. Enfin, le juge est vu comme ceux qui se sont dressés contre la mafia et qui, en quelque sorte, donc, ont à une certaine période protégé la société contre cet hydre, et que donc les juges sont encore vus en Italie un peu comme une figure positive, alors que je doute qu'en France les juges soient vus de la même façon. Donc j'en tirerai pas des conclusions sur la réussite ou non d'une initiative de même ordre en France.
Alors, est-ce qu'on peut lire quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie ?
Alors,
Pourquoi devrions-nous payer un tribut à des gens que l'on n'a pas invités, qui profitent déjà largement de nos libéralités, et ce pendant 10 ans, pourquoi pas 100 ?
Pour s'en débarrasser !
Pour nous purger de quelle culpabilité maladive ? Vous vous sentez coupable, Damien Rieu ?
Mais tout simplement, pour être efficace, je pense qu'on n'a pas le choix, voilà.
Si le terme remigration ne plaît pas aux intéressés, on pourrait peut-être leur dire « retour au cher pays de votre enfance, afin que nous, nous retrouvions le nôtre. Je ne vois pas pourquoi ils seraient les seuls à être heureux et qu'ils me pardonnent cet accès de jalousie. » Ça rejoint vos vacances perpétuelles.
Alors, et l'expression de rapatriement qu'a défendu d'ailleurs ici même Yvan Rieufol, oui.
Ne pensez-vous pas que les Français vont de plus en plus s'abstenir de voter, écœurés par ce monde politique plus ou moins corrompu, et à l'inverse, que les nouveaux arrivants français, d'identité musulmane par exemple, seront motivés à voter en masse et les filles, de manière à échanger la société française de l'intérieur, voire à l'échanger pour une nouvelle civilisation?
Pas pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, ils s'abstiennent plus que nous, même si ça pourrait changer.
Mais ça se corrige, puisque la force de Mélenchon, effectivement, c'est de faire en sorte que ces populations qui s'abstenaient beaucoup votent.
Alors,
on a vu d'ailleurs le même phénomène aux États-Unis, où les victoires d'Obama ou même de Biden ont été fondées sur la mobilisation du vote des minorités ethniques.
Sur une amélioration de ce vote, mais il est toujours en retrait quand même par rapport aux autres.
Oui, ce qui veut dire qu'ils ont de la marge de progression.
Alors,
ce qui n'est qu'à demi rassurant.
Déjà, je pense qu'on doit prendre en compte les différentes élections. C'est-à-dire, peut-être que là, on a eu 57% d'abstention. Peut-être qu'à la présidentielle, les Français se mobiliseront un peu plus.
La présidentielle, il y aura un deuxième tour avec un candidat national. Il y aura une forte mobilisation et sans doute une forte fraude électorale aussi.
Et alors, concernant la fraude le vote gris, en tout cas, et le vote des populations, au moins de cité, je reviens à ce que nous disait... On a une journaliste donc, qui fait des enquêtes maintenant pour Radio Courtoisie, qui s'appelle Julie Solveig, et qui rencontrait donc des personnes venant de banlieue, et notamment donc un ancien policier avec un grade assez élevé, et qui racontait que désormais, dans les banlieues françaises, on a un phénomène un peu à la mexicaine, avec des voyous, des trafiquants, qui organisent qui vont faire du porte-à-porte, et qui exigent des procurations de la part des habitants. On se dit, voilà, tu me donnes ta carte d'identité, tu fais une procuration, et ensuite ils vont voter à la place. Et sinon, ils organisent également quasiment des transports le dimanche matin pour emmener des gens voter en leur disant...
Ça, c'est vieux, ça.
Le Parti communiste faisait ça. Maintenant, les trafiquants de drogue.
Oui, oui. Et ils le font de manière politique en disant, tu votes pour le bon. Hein.
Avec une réduction sur le chichon, peut-être.
Peut-être.
Moins 20%.
Ou alors simplement un peu de terreur. Mais c'est vraiment inquiétant parce que ça traduit quand même une mexicanisation de notre pays. Le fait que ce soit des trafiquants qui organisent cela maintenant, et surtout, donc, ils le font avec un objectif politique précis. Et alors, je ne sais pas, ce sont des partis d'extrême gauche. Je n'en donnerai aucun pour ne pas avoir de procès, mais disons que si on regarde les programmes d'extrême gauche, ça peut être les partis qui promeuvent, par exemple, la libéralisation des drogues ou le désarmement des polices municipales. Voilà, ça peut être des choses qui vont faire le jeu, non pas du RN, comme on dit classiquement, mais le jeu des trafiquants. Et les trafiquants, ils trouvent leur intérêt et comptent bien envoyer des élus, des maires, des députés dans les instances dirigeantes de notre pays. C'est honnêtement extrêmement inquiétant.
Oui, moi je...
Damien,
je plus pas parce qu'on voit quand même que désormais, les dynamiques démographiques font déjà au moins localement des dynamiques électorales. Les dernières élections municipales l'ont amplement démontré. Et puis un second phénomène, c'est qu'auparavant, il y avait déjà une prise en compte de ce dynamisme démographique, mais sous une forme de clientélisme, islamo-gauchiste tantôt, islamo-droitard, comme l'avait bien identifié Damien Rieu dans d'autres cas. Mais maintenant, ces populations-là en sont au stade où elles sécrètent leur propre personnel politique, leurs propres élus, prennent le contrôle de villes entières et sur un mode revanchard. C'est-à-dire que ces gens-là ne se présentent pas tant... et en tout cas ne faites pas leur victoire sur le mode victoire de mon programme d'intérêt général, universaliste, je ne sais pas quoi. Non, sur le mode de la revanche, enfin, nous avons pris le contrôle et nous chassons les représentants de l'ancien personnel politique, ouais, notamment comme ce maire PS dont je parlais tout à l'heure.
Mais on les chasse avec violence, avec humiliation.
On ne le reproche pas tant d'avoir été socialiste ou d'avoir un programme qui ne convient pas. On lui reproche d'être en réalité, en sous-texte, d'être un autochtone.
Mais oui.
C'est ça qu'on approche.
Et
qu'il soit le processus est quand même bien avancé.
C'est ça. Et donc il y a cette volonté d'humilier l'adversaire, l'ancien allié. Et là, on en revient à ce que nous disait Stéphane Courtois, l'historien, il y a 15 jours. Alors, que les auditeurs de Radio Courtoisie ne pensent pas qu'on parle d'immigration toutes les semaines, on en parle tous les jours. Mais il nous racontait comment les Iraniens communistes avaient été les premiers à être fusillés et pendus par les Iraniens islamistes. Et là, si j'étais LFiste, je m'inquiéterais, parce que quand on voit effectivement comment les maires de gauche sont littéralement chassés de leur mairie, alors qu'ils étaient des alliés des immigrés, ils défendaient l'immigration.
Maire de Blanc-Ménil, qui n'était pas de gauche.
Et là, ils se font centristes, humiliés en partant, c'est vraiment... Enfin, si j'étais un homme de gauche, moi, ça m'inquiéterait gravement.